Alors, bonjour à tous. Ce matin, on va continuer notre survol dans l'Ancien Testament. Et puis, avant de continuer, on va prendre le psaume 95 ensemble. J'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans le psaume 95 pour débuter ce temps ensemble. On va lire le psaume 95 à partir du verset 1. « Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. » Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme à Meriba, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils aient vu mes œuvres. Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût, et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré, ils ne connaissent pas mes voies. Aussi, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Alors, ce psaume commence avec un appel à venir pour adorer, chanter à l'Éternel, pousser des cris de joie vers lui, fléchir le genou devant lui, reconnaître qu'il est Dieu, et qu'il est notre Dieu. Et au verset 7, la raison principale pour laquelle on vient pour louer notre Dieu, pour venir devant lui, c'est parce qu'il est notre Dieu et nous sommes son peuple. C'est lui qui nous a choisis. Il nous a choisis pour qu'on puisse être son peuple. Nous sommes son troupeau, le troupeau que sa main conduit. C'est lui qui est le berger. Et pour cette raison-là, on veut venir à lui, on veut venir dans sa présence, le célébrer, l'adorer. On fait ça dimanche après dimanche, puis on veut, ensemble, en Église, s'approcher de lui à travers l'enseignement de sa parole, mais aussi dans les louanges. Puis le psaume va terminer sur une note un peu plus, comment je pourrais dire, ça semble un peu négatif ou une note un peu plus triste, mais plutôt comme un rappel de qu'est-ce qui s'est passé avant dans l'histoire d'Israël. Puis on l'a vu un peu, vous l'avez vu la semaine passée avec Basile dans les livres de Lévitique, Nombre et Deutéronome. Le peuple d'Israël a été pendant 40 ans dans le désert et leur cœur s'est égaré. Et à cause de ça, il y a eu une conséquence. Puis on dit, le Seigneur avait donné comme conséquence, ils n'entreront pas dans mon repos. Ils ne vont pas entrer dans la terre promise à cause que leur cœur s'est égaré du Seigneur. Leur cœur n'était pas attaché à lui. Ils ont murmuré dans le désert. Et c'est un peu une mise en garde pour nous, en quelque sorte, ce psaume-là. C'est de dire, viens, louons notre Dieu. C'est lui qui est notre Dieu. C'est lui qui nous conduit. Il est le bon berger. Puis, faites pas comme ceux qui ont murmuré dans le désert. Faites pas comme ceux qui se sont détournés de lui parce qu'il y a eu une conséquence à ça. Et si on veut vraiment être heureux puis jouir du bonheur, c'est lorsqu'on s'approche de Dieu, qu'on vient près de lui puis qu'on le reconnaît comme notre Dieu. Et c'est ce qu'on veut faire encore une fois ce matin. En étant réunis ensemble, on veut s'approcher de notre Dieu. On veut prendre le temps de reconnaître sa grandeur, de reconnaître sa majesté et venir devant lui avec des louanges. Et en même temps, déposer nos cœurs, pour que nos cœurs puissent être attentifs à sa parole et puis qu'on puisse ressortir d'ici édifiés ensemble. Alors, on va se courber dans un mot de prière, puis ensuite de ça, on va aller voir ensemble le livre de Josué dans notre poursuite du survol. Courbons-nous. Seigneur notre Dieu, on veut te rendre grâce, te dire merci, parce que tu es le Dieu de l'univers. Toutes choses t'appartiennent. Le ciel, la mer, tout ce qui s'y trouve, Seigneur, c'est toi qui l'as créé. Tu as manifesté ta puissance dans ta création, Seigneur, en seulement mentionnant par ta bouche, en mentionnant que la chose soit et tout est arrivé, Seigneur, parce que tu es tout puissant. Et on veut reconnaître, Seigneur, que nous sommes tes créatures, que tu nous as créés pour qu'on puisse être soumis à toi, pour qu'on puisse t'obéir, et que c'est comme ça, Seigneur, qu'on vit vraiment le bonheur en toi. C'est en toi qu'on trouve notre joie, de jour en jour, en étant soumis à toi. Et c'est avec cette révérence, Seigneur, qu'on veut venir devant toi ce matin, avec un cœur ouvert à ta parole, un cœur ouvert à t'entendre. Et Seigneur, qu'on puisse apprendre de toi ce matin à travers ce survol du livre de Josué. Seigneur, viens faire ton œuvre en nous. On veut te rendre grâce pour le repos qu'on trouve en toi à cause de Jésus-Christ. On veut se rappeler ce matin aussi, Seigneur, à travers tout ce qu'on fait, ton évangile, le fait qu'on est réconcilié avec toi, qu'il n'y a plus de condamnation qui pèse sur nous, mais qu'on est en paix, dans une relation de paix avec toi. Seigneur, aide-nous aujourd'hui, dans ta grâce, à te glorifier en toutes choses. Travaille nos cœurs, fais ton œuvre en nous, et que tout ça puisse être pour ta gloire, Seigneur. Et c'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. Amen. Donc, on est rendu dans le livre de Josué. Je pense que c'est un bon moment à ce point-ci de faire un petit rappel. J'aime ça faire un petit rappel pour juste se remettre dedans. Lorsqu'on fait une heure de cours par semaine, là, des fois, ça peut être un peu loin. Fait qu'on va juste se rappeler un peu ce qu'on a dit un peu depuis le début. Dans le fond, en terminant la semaine dernière avec Lévitique, Nombre et Deutéronome, on a terminé la première grande section de l'Ancien Testament, qui est le Pentateuque, ou les livres de la loi, on l'appelle la Torah aussi, la loi. Et donc, on vient de terminer un des premiers grands blocs. Et qu'est-ce qui est important de saisir lorsqu'on fait un survol, puis on essaie de comprendre chaque partie de la Bible, c'est de saisir à quoi servait, ou en quelque sorte, c'est quoi l'utilité de cette section-là. Et dans cette première section-là, les livres de la loi, dans le fond, on avait mentionné que c'est la base. Les règles et les règles de l'alliance avec Israël. Cette base-là forme un fondement pour tout ce qui va venir après. OK? Si je m'en vais après ça, puis on commence à partir des livres historiques, à partir de Josué, et là, je lis le reste de l'Ancien Testament, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas toutes saisir parce que la base, c'est la loi. C'est là qu'il y a eu le commencement. Et donc, la loi vient poser un fondement, elle vient établir l'alliance. Ça, c'est important à saisir. Une alliance particulière avec Abraham et sa descendance, Isaac et Jacob. Puis, cette alliance-là est concrétisée avec Israël comme nation au Mont Sinaï, avec une alliance qui est renouvelée au Mont Sinaï, qui est donnée avec Moïse. Donc, ça, c'est le bloc des livres de la loi. Et puis après ça, chaque livre a son rôle à jouer, la Genèse. Si on va peut-être jouer un petit jeu un matin, peut-être juste vous questionner un petit peu, si vous deviez résumer en une ligne ou en un titre chacun des livres, qu'est-ce que vous répondriez? Par exemple, si on dit la Genèse, lorsqu'on parle de la Genèse, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? C'est quoi le... Qu'est-ce qui se passe dans la Genèse qui inclut tout, là? Oui, Nathalie? Le commencement, Nathalie. Hein, comment? Le commencement de beaucoup de choses, OK? Nathalie dit le commencement de beaucoup de choses, c'est vrai. Est-ce qu'il y a d'autres idées qui vous viennent en tête?
La promesse à Abraham,
OK, c'est excellent. Je pense que ça, ça couvre bien. En une phrase, l'origine de l'humanité puis d'Israël comme famille de l'Alliance. On va dire comme ça. Je pense que l'Alliance, hein? L'Alliance, c'est important aussi. Et je pense que l'Alliance, ça revient dans pas mal tous les livres. Mais dans la Genèse, c'est l'origine de l'humanité, mais qui conduit aussi à l'origine de l'Alliance avec Abraham. L'Exode, maintenant. C'est quoi qui vous vient en tête avec Exode? C'est sûr que juste le titre devrait vous dire quelque chose, hein? Enlevant la main, juste pour voir, quelqu'un est capable de me rappeler le livre d'Exode, qu'est-ce qui vous rappelle? Libération de l'Égypte, OK. Quoi d'autre? La Pâque, OK, oui, la célébration de la Pâque après, à la sortie d'Égypte. Y a-t-il d'autres éléments? La libération, c'est ça, libération, délivrance de l'Égypte. La loi, c'est ça, la loi, OK? Ça, je pense, c'est le deuxième morceau que je cherchais. C'est la libération de l'Égypte et puis l'établissement de l'alliance avec Israël comme nation, avec la loi qui commence à être donnée, qui est donnée avec les 10 commandements, entre autres. Oui, Wismar?
Le baptême d'Israël et les mères rouges.
Oui, c'est ça, le baptême d'Israël à travers la mer Rouge. Excellent, oui. Donc, c'est comme l'initiation d'Israël comme nation, l'inauguration, si je peux dire, d'Israël comme nation officiellement à travers le baptême, la traversée de la mer Rouge et puis la loi qui est donnée. Maintenant, le Lévitique, on voit à travers le Lévitique qu'il y a eu des célébrations. Là, je vais aller vous aider parce que je sais qu'on les a survolés un peu plus rapidement. Les célébrations du culte à Dieu, plus spécifiquement dans la loi qui est donnée, c'est comment on célèbre Dieu comme nation qui a été mise à part pour lui à travers des saisons particulières, des fêtes, des sacrifices et des offrandes. Le livre des Nombres, c'est la préparation pour l'entrée dans la terre promise. Il y a un dénombrement qui est fait. On essaie de voir où est-ce qu'on en est rendu, les familles, etc. Et puis, on se prépare à entrer, à s'organiser pour entrer dans la terre promise, mais il arrive un événement fâcheux. Il y a 12 espions qui s'en vont explorer la terre de Canaan. Il y en a 10 qui reviennent une mauvaise attitude, si je peux dire, avec un cœur qui n'a pas la foi en Dieu. « Hey, il y a des géants là-bas, tu aurais dû voir ce qu'il y a là-bas, on va se faire détruire si on s'en va là-bas. » Et puis, il y a Josué et Caleb, qui eux, deux des espions qui arrivent avec une bonne attitude, mais ça a toute une influence sur le peuple qui se met à murmurer contre Dieu, et Dieu va punir le peuple avec une errance de 40 ans dans le désert. Et comme on l'a vu dans le psaume 95 au début tout à l'heure, il a juré dans sa colère, « Ils n'entreront pas dans mon repos. » Et donc, le peuple, cette génération-là est décédée, est morte dans le désert. Et puis, c'est la génération d'ensuite qui va avoir ce privilège-là. Dans le Deutéronome, c'est cette nouvelle génération là, qui est sur le bord d'entrer dans la terre promise. Elle fait une rétrospection sur ce qui s'est passé et puis une anticipation à ce qui s'en vient. C'est un renouvellement de l'alliance avec cette nouvelle génération. La loi est rappelée. Et puis, le peuple de l'Alliance est appelé à être saint à nouveau et à servir l'Éternel de tout son cœur. Et comme on le voit, on arrive à ce point-ci. Dieu a délivré Israël de l'Égypte, les a amenés à travers une errance de 40 ans dans le désert, mais là, se prépare à entrer dans cette terre promise. Et c'est la nouvelle génération qui est là, qui doit appliquer la loi de Dieu à son cœur. Il doit la transmettre à une prochaine génération, puis vivre en suivant, pas l'exemple de leur père, mais en s'attachant, en obéissant à l'alliance que Dieu a établie. Et on arrive à la section des livres historiques. Cette section-là se présente les événements de façon générale, généralement dans un ordre chronologique. Puis c'est formé par les livres de Josué jusqu'à Esther. Ça couvre une période d'environ 1000 ans, du 15e siècle au 5e siècle avant Jésus, et puis qui couvre en réalité la période de l'entrée dans la terre promise jusqu'à une restauration après la déportation à Babylone. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. On va voir les rois qui sont venus, le roi Saül, David, Salomon, etc. Le royaume par la suite qui va être divisé, toutes sortes de choses. Mais là, on arrive à cette section-là. Et cette section-là, si on veut retenir quelque chose de cette section-là, c'est vraiment l'application de l'alliance au cœur du peuple de Dieu, cette alliance qui a été établie entre Dieu et le peuple d'Israël. On va voir comment cette alliance-là est appliquée au peuple de Dieu et comment le peuple de Dieu va vivre à l'intérieur de cette alliance-là. Le livre de Josué, c'est le premier livre. Il raconte, premièrement, évidemment, la conquête de la terre promise. Dieu a promis une terre et un pays à Abraham, déjà dans Genèse 12, je vais vous donner le pays que tu vois, je vais le donner à ta descendance. Et là, c'est la réalisation de cette promesse-là qui commence et qui va être racontée. Dieu a promis cette terre-là à Abraham, à sa descendance, puis sous la gouverne de l'Éternel, Josué va être le commandant de l'armée de Dieu pour conduire le peuple dans cette conquête de la terre promise. Donc, on va... Ça nous place un peu un survol où on en est rendu. Maintenant, on va aller un petit peu plus dans certains détails concernant le livre lui-même. Le thème du livre de Josué, si on veut essayer de bien saisir, c'est Dieu qui accomplit sa promesse envers Israël puis qui démontre sa puissance en établissant son peuple dans la terre promise afin qu'il y trouve le repos dans une relation intime avec lui. Donc, deux des éléments importants, Dieu accomplit sa promesse, donne une terre, il démontre sa puissance en établissant le peuple avec toute l'armée, des manières miraculeuses que Dieu va donner la terre à Israël. Et ça, c'est dans un but particulier, pour qu'Israël trouve le repos. Le repos dans une relation intime avec Dieu. Et on va voir ça. Puis cet élément-là, je dirais, c'est l'élément à souligner. Parce que ce que Dieu veut à l'intérieur d'une alliance avec lui, c'est donner le repos à son peuple, donner le repos de l'âme, une satisfaction entière en Dieu. Et on va voir qu'Israël, évidemment, vont manquer dans le mandat que le Seigneur leur a donné et dans l'obéissance, et ça va amener, plutôt que le repos, les inquiétudes puis les tracas. Mais si on veut souligner un élément, c'est Dieu qui accomplit sa promesse de donner le repos à Israël. L'auteur de Josué, c'est jamais mentionné, particulièrement dans le livre de Josué, mais c'est raisonnable de croire que Josué lui-même serait l'auteur de ce livre-là. Il y a certaines évidences à l'intérieur du livre qui semblent démontrer que Josué est l'auteur. Entre autres, dans Josué 24, 26, ça dit que Josué a écrit et inscrit ces événements-là, ce qui s'était passé, dans le livre de la loi. Et donc, le fait qu'on voit que Josué a écrit ces événements-là nous amène à croire que c'est lui, finalement, qui a écrit l'essentiel de tout le livre et puis qu'il en est l'auteur. La rédaction a eu lieu fort probablement pendant sa vie, évidemment. La vie de Josué se place environ, évidemment, au moment de la conquête de la Terre promise, à travers toutes sortes d'études, puis avec les dates qu'on trouve dans les Écritures, puis aussi des recherches archéologiques. La plupart des commentateurs conservateurs, je dis conservateurs parce qu'il y en a toutes sortes qui vont remettre en question des choses, mais ceux qui sont les plus conservateurs vont dire qu'on peut dater la conquête de Jéricho aux alentours de 1406 avant Jésus. Donc, si la conquête de Jéricho a eu lieu en 1406, Josué avait à peu près 75 ans à ce moment-là. Il est mort à 110 ans. Donc, aux alentours de 1400 ou 1375, c'est le moment où le livre de Josué aurait été écrit par Josué lui-même. Ensuite de ça, si on veut comprendre le livre de Josué dans son ensemble, ou comprendre sa structure, j'ai mentionné dans les notes quatre parties, mais en réalité, c'est deux grandes parties dans le livre de Josué. Les chapitres 1 à 12, ça se découpe facilement, les chapitres 1 à 12 et 13 à 24. Les chapitres 1 à 12 racontent la conquête, l'entrée dans la terre promise, entre autres dans les chapitres 1 à 4, et ensuite de ça, dans les chapitres 5 à 12, vraiment la conquête. À partir du chapitre 13 et jusqu'au chapitre 24, c'est la distribution, si je peux dire, l'attribution de la terre promise aux différentes tribus d'Israël. On va faire des plans pour attribuer, voici tel territoire va aller à telle tribu, ce territoire-là va aller à une autre tribu, etc. Et finalement, ça termine avec la possession de la terre promise, le discours de Josué à la nouvelle génération avant sa mort, et puis le discours de Josué qui encourage à marcher avec Dieu, et la description de la mort de Josué au chapitre 24, à la fin du chapitre 24. Donc ça, c'est les gros morceaux. Ce qu'on veut retenir maintenant, Dieu a donné la terre promise selon sa promesse, et puis chaque élément de la terre promise va être donné aux tribus d'Israël, et puis à travers ça, Dieu va se manifester à son peuple. Et ce qu'on veut apprendre de tout ça, c'est premièrement, qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que Dieu a fait pour son peuple? Et j'aimerais commencer ce bref survol à partir du chapitre 1. En lisant le chapitre 1, les versets 1 à 9, on va voir vraiment comme l'appel, si je peux dire, de Josué, ou plutôt les instructions que Dieu va donner à Josué qui prend la tête un peu d'Israël à la place de Moïse qui est mort. Alors, Josué 1, verset 1, ça dit « Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alors, c'est le commencement du livre, et comme je le mentionnais, c'est un peu les instructions que Dieu donne au nouveau chef d'Israël, qui est Josué. Josué, soit dit en passant, ça vient de l'hébreu, ça veut dire « sauveur ». En fait, dans l'hébreu, lorsqu'on traduit en français « Josué », c'est essentiellement le même nom que Jésus, qui est le sauveur. Donc, Jésus, si on le prend en hébreu, c'est Josué, Yeshua, et donc le Yehoshua. Et dans le fond, Josué, c'est le sauveur. C'est le sauveur d'Israël qui va donner la terre promise au peuple. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que Dieu va dire à Moïse. Puis, en lisant le passage, j'étais là, il me semble que si je donne des instructions, puis je veux donner une formation à un leader pour conduire un peuple de plus de 2 millions de personnes qui rentrent dans une terre promise, un chef d'armée, il me semble que je lui donnerais d'autres instructions, il me semble que je lui donnerais une autre formation que ce qui est mentionné là. Je lui donnerais des tactiques de guerre peut-être, ou je lui donnerais des manières de diriger le peuple. Fais ci, fais ça, voici les techniques, comment faire. Mais ce que Dieu fait, ce n'est pas ça du tout. Dieu, il rappelle la chose la plus importante. La chose la plus importante, c'est que ton cœur soit soumis à moi. Puis si tu es soumis à moi, puis tu m'obéis, je vais être avec toi. Je vais t'accompagner. Puis tu n'auras pas besoin de toutes les techniques de guerre ou de quoi que ce soit. Ce que tu as besoin, c'est que je sois avec toi. Puis je vais être avec toi, puis je vais être avec le peuple, mais marche dans mes voies. C'est ce que Dieu va dire. Et Dieu va rappeler sa promesse au verset 3 à 5. Il dit, « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. » Dieu l'avait dit, Dieu avait promis. Dieu va accomplir sa promesse. Au verset 5, il dit, « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. » « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Et qu'est-ce que Dieu est en train de dire lorsqu'il dit, « Je serai avec toi. » Dieu rappelle son nom. Dieu rappelle son nom à Josué. On l'a vu dans Exode 3, quand Dieu s'est présenté à Moïse, il dit, « Je suis celui qui suis. Je suis. » Mais aussi, il a dit, « Je serai avec toi. » Comme je vous l'avais mentionné, le nom de l'Éternel, Yahvé, c'est le verbe « être au présent » de l'indicatif, mais peut être traduit aussi dans le futur. « Je suis » ou « Je serai ». Et donc, lorsque Dieu se présente à Josué, il dit encore une fois, « Je serai avec toi », comme il le dit à Moïse, puis qui a accompli les choses merveilleuses à travers ce que Moïse a vécu, la traversée de la mer Rouge, certains miracles se sont passés dans le désert. Dieu était avec son peuple malgré la désobéissance. Et Dieu va rappeler à Josué, « Je serai avec toi ». Et ce qui est important de se rappeler, c'est que lorsqu'on appartient au Seigneur, le Seigneur est avec nous. Peu importe ce qu'on entreprend, peu importe ce que le Seigneur place devant nous, ça peut être des projets ambitieux comme la conquête d'une terre promise ou des projets plus humbles, disons-le comme ça. Hein, on est au service du Seigneur, puis on est des instruments entre les mains du Seigneur, puis le Seigneur nous appelle d'une manière particulière, chacun selon nos dons, à le servir. Mais lorsqu'on veut le servir, lorsqu'on veut servir le Seigneur, on veut se rappeler qu'on ne le fait pas par nos propres forces, ou oui, on va mettre nos énergies, mais on le fait en s'appuyant sur lui. On le fait en s'appuyant sur le fait qu'il nous a promis, « Je serai avec toi ». Puis Jésus nous l'a rappelé aussi. Lorsqu'il est parti, il est monté au ciel. Il dit, « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et la présence de Dieu dans nos vies, c'est ce qui fait en sorte qu'on peut marcher avec confiance. On peut se fortifier, prendre courage en lui, pas s'inquiéter, mais toujours s'appuyer sur lui et s'assurer qu'on s'attache à sa parole, qu'on s'attache à ses lois, qu'on attache nos cœurs à lui, qu'on puisse expérimenter une relation intime avec lui. Et en s'appuyant sur lui, Dieu nous conduit. Puis ça ne va pas toujours être facile. Il va y avoir des épreuves, ça c'est sûr. Mais c'est tellement rassurant de savoir que Dieu nous dit, « Je serai avec toi. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et Dieu est avec son peuple. Et donc, on voit à travers ça qu'un vrai leader, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas quelqu'un avec des super techniques ou même on va le voir avec, dans le reste de l'histoire d'Israël. Les gens vont chercher des rois qui ont une stature, qui ont l'air d'un bon leader, il est organisé. Un leader, selon Dieu, c'est ce que Dieu demande, c'est une personne qui place sa confiance en Dieu puis en ses promesses. C'est une personne qui est attachée à sa parole, qui la médite jour et nuit en obéissant à Dieu en toutes choses. Ce n'est pas quelqu'un qui s'appuie sur ses propres forces dans ses entreprises, c'est quelqu'un qui s'appuie sur l'Éternel, qui lui fait confiance. C'est comme ça qu'un leader peut avancer. C'est comme ça que n'importe qui, dans un sens, peut réussir dans ses entreprises. La réussite, ce n'est pas nécessairement ce que le monde nous dit qui est une réussite. Qu'est-ce que Dieu dit qui est une réussite? Ça, c'est ça la vraie réussite, dans le fond. Le vrai succès, c'est de savoir qu'est-ce que Dieu voit comme le succès. Et puis, on vit dans une culture que des fois, c'est à cause que tu as une grosse maison ou une belle voiture ou un bon poste dans ton travail ou toutes sortes de choses qui fait que, hey, ce gars-là, il a du succès. Mais est-ce que c'est le succès selon Dieu, ça? Le succès selon Dieu, c'est « marche avec moi, je vais être avec toi. » Puis c'est moi qui vais accomplir des choses à travers toi. Mais s'appuyer sur Dieu, c'est Dieu qui travaille à travers nous. Le succès, c'est une vie d'obéissance. Une vie d'obéissance soumise à sa parole. C'est ça le succès qu'on devrait rechercher. Puis même si, c'est vrai, ça nous demande des choses des fois. Là, ça demande quelque chose à Josué. Fais-moi confiance, puis tu vas aller en avant, puis tu vas combattre ces peuples-là. Fais-moi confiance, tu vas voir, je vais être avec vous. Puis c'est ça le succès, c'est de s'appuyer sur le Seigneur, se confier en lui, dans sa parole. On va avancer un petit peu, juste un petit peu plus loin. Puis je veux souligner aussi, c'était quoi le but de la conquête? Puis ça, j'ai fait une parenthèse avec Josué, la relation entre Dieu et Josué qui est là. Je trouvais ça important. Ça ouvre le livre. Mais maintenant, qu'est-ce que Dieu demande à Josué? Puis dans quel but il veut donner la terre promise? Dans le chapitre 1, toujours, les versets 12 à 15, j'aimerais ça que vous soyez attentifs. Je vais vous poser une question après. Josué dit aux Rubénites, aux Gadites et à la demi-tribu de Manassé. Donc, c'est une partie là, des tribus là, qui allaient aider à la conquête, entre autres. Il dit, « Rappelez-vous ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, quand il a dit, « L'Éternel, votre Dieu, vous a accordé du repos et vous a donné ce pays. Vos femmes, vos petits-enfants et vos troupeaux resteront dans le pays » que vous a donné Moïse de ce côté-ci du Jourdain. Mais vous tous, hommes vaillants, vous passerez en armes devant vos frères et vous les aiderez, jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous, et qu'ils soient aussi en possession du pays que l'Éternel, votre Dieu, leur donne. Puis vous reviendrez prendre possession du pays qui est votre propriété et que vous a donné Moïse, serviteur de l'Éternel, de ce côté-ci du Jourdain, vers le soleil levant. » Donc, il y avait, dans ce texte-là, une mention de qu'est-ce que c'est le but de la terre promise. Je l'ai déjà mentionné un peu au début, mais juste le souligner. Quel était le but? Pourquoi Dieu accordait la terre promise à son peuple? Oui, Camille. Le mot « repos » qui revient. Oui, exactement. C'est exactement pour ça. Pour quelle raison Dieu veut donner cette terre-là à son peuple? c'est pour leur donner du repos. Un repos, pas nécessairement juste des vacances, on s'entend, c'est un repos dans une terre fertile où ils allaient travailler, ils allaient cultiver la terre, mais ils allaient être en repos parce qu'ils allaient vivre à l'intérieur de cette alliance que Dieu a établie avec son peuple. Il leur a donné une alliance qui allait, à travers l'obéissance, les bénir. Et Dieu allait être avec eux. Et le repos, en réalité, c'est le repos de l'âme. Le repos de pouvoir vivre dans une confiance en Dieu. De pouvoir vivre en dépendant de lui. Et, dans le fond, évidemment, ça voulait dire aussi le repos parce que Dieu allait leur accorder un espace pour vivre et aussi les protéger de leurs ennemis. Mais le but de la conquête, c'était effectivement pour avoir du repos, pour donner le repos à son peuple. Et Dieu est en train d'établir son royaume avec Israël. Il est en train d'établir son royaume sur la terre à travers Israël. Puis il voulait donner la terre de repos, une terre de repos et du repos à son peuple. Et la terre promise, en réalité, lorsqu'on regarde, ça n'a pas été nécessairement une terre de repos pour Israël. Ça a été une terre où ils n'ont pas obéi entièrement à ce que Dieu a demandé. On n'aura pas le temps de tout voir les détails de la conquête dans le livre de Josué, mais à certains endroits, ce que Dieu demandait, c'était de dévouer par interdit. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire de prendre une possession complète de tout le territoire et de ne pas faire des alliances avec les nations étrangères qui étaient là présentes. Et ce qu'on va voir, c'est qu'à certains moments, entre autres à Galaad, des conquêtes, des parties de la conquête, va y avoir comme des compromis qui vont se faire avec les autres nations qui sont là. Et ces compromis-là, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils vont venir influencer Israël, puis éventuellement détourner le cœur d'Israël de son Dieu. Et on va voir qu'à travers ça, il y a eu des guerres et pendant toute l'histoire d'Israël, finalement, Israël va perdre le territoire avec la déportation en Assyrie, la déportation à Babylone, ils vont perdre le territoire. Mais tout ça, finalement, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas appliqué leur cœur à obéir parfaitement à ce que Dieu leur avait demandé. Mais la terre promise, en quelque sorte, c'est aussi une imperfection. C'est une chose qui était l'ombre de quelque chose qui était à venir. C'était le repos que Dieu donnait à Israël. Mais c'était un repos physique, c'était un repos qui n'a pas vraiment eu lieu. Mais Dieu veut garder sa promesse de donner du repos à son peuple. Et en Jésus-Christ, Dieu a accompli cette promesse-là. Dans Matthieu 11, verset 28, les versets 28 à 30, Jésus vient, il annonce à Israël, il annonce à ceux qui le suivent, il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Qu'est-ce que Dieu voulait? Ce que Dieu veut dans une relation avec ses enfants, c'est leur donner du repos. Le repos pour quoi? Le repos pour leur âme. Puis dès maintenant, même si toutes sortes de choses peuvent nous tracasser, même si on ne vit pas entièrement tout le salut que Dieu nous a promis d'être délivré de la chair, délivré du monde, du péché, on est encore dans l'attente de vivre de l'accomplissement complet de ce repos-là. Mais maintenant, le Seigneur nous offre ce repos-là. Et le repos est disponible en Jésus. Puis les inquiétudes, parfois, même souvent, nous empêchent de vivre pleinement le repos que Christ nous offre. Comme Dieu a dit à Josué, « Fortifie-toi, prends courage, ne t'effraie point, ne t'épouvante point. » Le Seigneur veut nous donner ce repos-là, le repos pour notre âme. Qu'est-ce qui nous préoccupe, qui nous empêche de trouver ce repos-là. Souvent, on a des inquiétudes. Qu'est-ce qui nous préoccupe, qui nous amène à vouloir prendre les choses en main, puis vouloir régler les choses, qui fait en sorte qu'on s'éloigne du repos plutôt que de s'approcher de Dieu, puis de dire, « Seigneur, viens m'aider. Je veux trouver mon repos en toi. J'ai des inquiétudes que je vis. Je veux les déposer à tes pieds. » Puis le Seigneur nous conduit souvent dans des périodes d'incertitude. Puis on a vécu comme famille une période d'incertitude, entre autres. Puis ça me rappelle, parce que, tu sais, j'étudie ça, puis à un moment donné, tu dis, je vis-tu le repos dans le Seigneur, moi? Puis je vois des moments dans ma vie où c'est que, ouais, c'était pas à 100% en train de vivre le repos que Dieu m'offre. Quand c'était le moment de déménager aux États-Unis pour les études, c'était quand même un beau défi. C'était pas une grande épreuve, mais c'était quand même un défi. De dire, on va aller aux États-Unis, puis là, il faut se trouver un endroit pour habiter, déménager avec la famille. Puis ça, on ne connaissait rien. Hein, on est habitué ici au Québec, tout ça. Juste pour ajouter à l'anecdote, nous, on est habitué au Québec que les logements, ça se loue comme longtemps d'avance. Au mois de février, les gens disent « je vais quitter », puis là, déjà, les logements sont alloués pour le 1er juillet. Et là, on s'en va là-bas au mois de février, nous autres, comme bons Québécois, puis essayer de trouver un logement. Non, man, tu ne trouveras rien ici, là, à ce temps-ci. Là. Le monde, ils donnent leur réponse un mois avant, puis tu vas le savoir là, au mois de mai, si tu réussis à avoir quelque chose au mois de juin. Eh hey boy! Et là, c'est pas une mince affaire. Là. Je me trouve de quoi le mois avant pour. Là, jusqu'à un mois avant, on ne savait pas où c'est qu'on s'en allait. Là. On savait qu'on s'en allait à peu près là, mais où exactement, où c'est je vais amener mes affaires, je ne sais pas. Et là, honnêtement, il y a quand même une petite inquiétude. Là, je disais, Seigneur, il faut que je trouve quelque chose. Puis, fait qu'on retourne au mois de mai, à mi-mai à peu près, je me souviens. On voyage, on retourne à Louisville, cherche une maison. On passe une fin de semaine là-bas. Puis là, mon ami, on ne trouve rien. Ça ne correspond pas à ce qu'on cherchait, notre famille, tout ça. Ouf! Là, on arrive, on passait la fin de semaine. On repartait le lundi matin. Le dimanche soir, on était arrivé. On n'avait rien. On n'a rien trouvé. Il fallait trouver quelque chose. Il fallait, c'est comme, bien, dans ce qu'on a vu, il faut peut-être choisir de quoi. Puis je me souviens, il y avait une maison qui était allouée. Puis que c'était la fin de semaine. Puis je n'avais pas appelé l'agent. Je me dis, les autres, je les avais appelés d'avance. Puis celui-là, je ne l'avais pas appelé. Il doit être en congé la fin de semaine. Fait que ma femme a dit, appelle-les pareil. T'sais, on ne sait jamais. Donc là, dimanche soir, j'appelle. Puis je reçois un texto, je ne sais pas trop, là, dans la soirée. Puis nous planifie une visite le lundi matin. Puis on était pour partir, là, on s'en allait, il fallait revenir. Et puis on va visiter la maison, on arrive là-bas, on dit wow, « ouais, c'est ça que ça prend, wow, c'est ça que ça prend. » Puis là, on arrive et il dit « on le prend ». Puis là, on repart, on est sur la route, puis on règle les détails, puis tout ça. Puis Dieu nous donne cette maison-là pendant le temps qu'on était là-bas. Mais on est... Ben, c'était à la dernière minute, hein? Puis là, tu te dis, là, tu t'inquiètes, qu'est-ce qui va se passer? Là, faut que je déménage, puis là, faut que je sorte, il y a quelqu'un qui prend ma maison. Oh, des fois, là, hein, les tracas. Dieu était bon. Puis lorsque je regarde dans le passé, j'apprends que je peux trouver en Dieu mon repos. Parce qu'est-ce qu'il y a des moments où Dieu n'a pas été fidèle? Quand je regarde dans le passé, y a-t-il des moments où je peux dire, Dieu, tu n'as pas été fidèle? Je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. Des fois, on se demande, on vit des situations, des fois, on n'a même pas la réponse de pourquoi Dieu nous fait passer à travers ça. Mais est-ce que Dieu a manqué à sa parole? Est-ce que Dieu a toujours été fidèle? Oui. Pourquoi je m'inquiète? S'il m'a amené jusqu'ici, puis qu'il m'a donné le repos jusqu'ici, puis il a pris soin de moi jusqu'ici, pourquoi il ne prendrait pas soin de moi dans le futur? Il m'a promis qu'il était avec moi. Il m'a promis qu'il allait être avec moi pour toujours. Et puis, ça, c'est notre chair, des fois, qu'on a besoin de se rappeler. De dire, Seigneur, tu as été bon dans le passé, puis c'est ça que je veux me rappeler. Je ne veux pas regarder en avant, puis voir la montagne en avant de moi. Je veux voir la montagne qui est en avant de moi, mais je sais qu'avec toi, je peux la surmonter. Je sais que toi, tu es plus grand que cette montagne-là. C'est de toutes les affaires qui peuvent me paraître comme une montagne. Toi, tu es plus grand que ça. Puis je sais que tu vas être avec moi. Bon, OK, j'ai pris du temps pour ça. Il faut avancer. Mais je pense que ça, c'est important, de dire, je peux me confier dans le Seigneur. Philippiens 4, 6 et 7, je pense que le Seigneur nous rappelle encore, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est facile, on le connaît par cœur, mais le vivre maintenant. Seigneur, aide-nous à vivre ça, que je puisse me confier en toi. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à travers Jésus-Christ, on trouve le repos en Dieu. Mais ce repos-là va être éternel. On n'aura pas le temps d'aller lire, mais je vous inviterai peut-être à le noter, d'aller lire Apocalypse 21, les versets 1 à 5. Dieu ne nous donne pas seulement un repos ici pour notre âme, mais il nous réserve un repos éternel, où ce qu'on va être entièrement délivré de tout ce qui peut nous empêcher de trouver vraiment notre repos dans le Seigneur. Et puis un jour, on va être avec lui, on va le contempler dans son royaume, face à face. Il va nous délivrer de toute souffrance, de toute larme. Et le Seigneur veut nous donner ce repos-là. Et puis ça me fait penser au chant que j'aime beaucoup. Tu sais, des fois, il y a des vieux chants. Moi, j'ai appris des vieux chants parce que j'étais tout jeune dans l'Église. Mais le chant « Quel repos céleste ». C'est un chant que j'apprécie, c'est ça. Ce chant-là, « Quel repos céleste que je peux trouver dans le Seigneur Jésus ». Puis le dernier couplet, il dit « Quel repos, Seigneur, quel repos céleste, quand enfin, Seigneur, auprès de toi, j'aurai ma place. Après les travaux, les combats, la douleur, à jamais je pourrai voir ta face. Quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. » Ça, c'est ce que le Seigneur nous promet. Dieu a accompli sa promesse de donner du repos à Israël. Il va nous donner notre repos aussi en lui lorsqu'on va entrer dans sa présence. Avez-vous hâte à ce moment-là? Hein? Il faut regarder à ce moment-là avec espérance. Des fois, c'est difficile, mais en regardant-là, « Seigneur, j'ai hâte d'être avec toi. J'ai hâte de te voir. J'ai hâte de contempler ta face, de trouver le repos avec toi. » Ah! Puis là, hein? En attendant, Seigneur, aide-moi à continuer puis à ne pas lâcher. Mais j'ai-tu hâte d'être avec lui, puis on a hâte d'être dans sa présence. Parce que c'est là qu'on va vivre pleinement le repos en lui. Le Seigneur continue, Josué continue dans l'entreprise de la conquête de la terre promise. Il arrive à cette conquête avec la prise de Jéricho dans le chapitre 1, les versets 1, dans le chapitre 6, pardon, avec les versets 1 à 5, je vais lire. Jéricho était fermé et barricadé devant Israël, devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. » Lorsqu'on regarde ce récit-là, c'est l'instruction que le Seigneur donne à Josué. Encore une fois, il se dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Il me semble que ce n'est pas les techniques de guerre normales, cette affaire-là. Là. Aller faire le tour de la ville, on va faire le tour de la ville 7 fois, pendant 6 jours, puis le 7e jour, on va le faire 7 fois, on va faire sonner la trompette. Qu'est-ce qui allait donner la victoire à Israël? Dans le passage, on voit que c'est parce que l'Éternel, parce que Dieu allait les livrer entre leurs mains. Ce que Dieu voulait leur montrer, c'est de dire, vous n'avez pas besoin des chars et de toute la force, vous avez juste besoin que je sois avec vous parce que moi, je suis assez puissant pour vous donner ce pays-là, puis vous donner cette ville-là. Et c'était pas normal. J'ai jamais vu une armée aller faire le tour d'une ville puis réussir à gagner en sonnant de la trompette. Non, parce que ce n'est pas les techniques humaines. Avec Dieu, c'est des techniques divines. Et Josué, devant ça, fait confiance à Dieu. OK, ça marche, tu me dis de faire ça, je vais le faire. Verset 6. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit, « Portez l'arche de l'Alliance et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche. » Et il dit au peuple, « Marchez, faites le tour de la ville et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. » Josué obéit au Seigneur, même s'il n'avait pas d'allure, humainement parlant, de faire le tour de la ville. Mais Dieu était avec lui et Dieu a accompli cet exploit-là. Les murs ont tombé, le peuple d'Israël a pris Jéricho, a pris possession de la terre promise. La même chose est arrivée avec Haï au chapitre 8. Des manières inhabituelles de faire la guerre, Dieu leur a donné parce que Dieu combattait avec eux. Et ce qu'on voit à la fin de la section, au chapitre 11, c'est que Dieu accomplit cette promesse envers Israël à travers toutes les conquêtes, la conquête de la terre promise. On lit au chapitre 11, verset 23, « Josué s'empara donc de tout le pays, selon tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse, et Josué le donna en héritage à Israël, à chacun sa portion, d'après leur tribu. Puis, qu'est-ce que ça dit? Le pays fut en repos et sans guerre. » Il y a des indicateurs comme ça tout au long du livre. Le pays fut en repos. Et à travers tout ce que Dieu accomplit, Dieu accorde le repos à son peuple. Et Dieu accomplit ses promesses aussi. On avance rapidement jusqu'au chapitre 21, les versets 43 à 45. On lit que Dieu accomplit ses promesses envers Israël en leur donnant le repos. Verset 43, chapitre 21, verset 43. « C'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leur père. Ils en prirent possession et s'y établirent. L'Éternel leur accorda du repos tout autour, comme il l'avait juré à leur père. Aucun de leurs ennemis ne put leur résister, et l'Éternel les livra tous entre leurs mains. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplir. » Et ça, c'est des marqueurs dans le récit qui sont importants, qui viennent fermer une boucle. Ça vient fermer la boucle de la conquête, de la distribution du pays. Et qu'est-ce que Josué nous dit ici? De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplir. Dieu accomplit ses promesses. Dieu avait promis de donner à Israël la terre promise, il l'a donné. Dieu leur avait promis de donner du repos, ils ont trouvé du repos. Évidemment, pas parfaitement, mais ils ont trouvé le repos, comme Dieu l'avait promis. Ils ont donné la victoire à Israël. Il a marché avec eux, devant eux, avec puissance. Il leur a donné la victoire à travers toute la conquête. Et ce qu'on voit aussi, c'est que à travers Jésus-Christ, Dieu nous donne aussi la victoire. Dieu n'est pas... Puis ce n'est pas une victoire qu'on a acquise par nous-mêmes. C'est une victoire que Jésus lui-même a acquise pour nous. Comme Josué a vaincu les ennemis du peuple de Dieu dans la terre promise, Jésus a obtenu la victoire sur l'ennemi de nos âmes. Par sa mort et sa résurrection, Jésus a terrassé la mort, le péché, la mort et Satan, pour que nous puissions hériter de la vie éternelle et de l'incorruptibilité. On voit dans 1 Corinthiens 15, les versets 54 à 57. C'est Paul qui dit, « Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Jésus-Christ est venu comme le représentant d'Israël, le représentant de toute la race humaine. Le peuple d'Israël n'a pas été capable de suivre la loi de Dieu parfaitement. Ils n'ont pas été capables de garder cette alliance-là. Et toute l'humanité a péché devant Dieu. Et qu'est-ce que Dieu fait pour vaincre l'ennemi de nos âmes, notre accusateur? Il vient pour donner en Jésus-Christ une obéissance parfaite à la loi. Où est l'aiguillon? L'aiguillon, c'est le péché. Puis la puissance du péché, c'est la loi. Et si on a quelqu'un qui accomplit la loi parfaitement pour nous, comment est-ce qu'on peut être accusé si on a un représentant qui nous dit « Venez à moi, venez, vous allez avoir le pardon. J'ai obéi à la loi parfaitement à votre place. Puis en vous, il n'y a plus d'accusateur. Il n'y a plus d'accusateur. Vous allez trouver en vous, à travers moi, la victoire. » Jésus-Christ a eu la victoire sur l'ennemi de nos âmes. Il a détruit la mort en accomplissant parfaitement ce que la loi demandait. Puis maintenant, on a la promesse d'un repos qui ne sera pas corruptible, mais incorruptible. Un repos parfait, éternel, en Jésus-Christ. parce que lui nous a mérité une nouvelle alliance, en qui et en lui, par la foi maintenant, on a le pardon de nos péchés, on est réconcilié avec lui. À la fin de Josué, le chapitre 24, c'est un chapitre quand même important, puis qu'on peut apprendre beaucoup de choses dans ce chapitre-là. Les versets 14 à 28, on n'aura pas le temps de tous les lire, de lire le passage. Mais c'est un passage où Josué arrive à la fin de sa vie, et souvent on va voir ça, à la fin de la vie d'un grand homme, il va donner ses recommandations à ceux qui vont le suivre. Moïse a fait la même chose, Josué le fait. David va le faire avec Salomon. On voit ça dans les Écritures. Et il y a comme un bâton qui se transmet à la prochaine génération. Est-ce que le Seigneur rappelle à travers ça? Le Seigneur rappelle les exploits qu'il a accomplis pour Israël dans la conquête. Puis Josué appelle maintenant le peuple à prendre un engagement envers Dieu. Il va dire, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Les dieux étrangers ou l'Éternel? Et le peuple dit, il veut choisir, le peuple dit, on veut servir l'Éternel. Et Josué aussi a dit, moi, choisissez qui vous voulez servir, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et c'est souvent les points, des moments marquants des fois que Dieu place dans nos vies. Un moment où on a vécu des épreuves, où on arrive à une étape de vie. Je me souviens, quand j'ai quitté la maison de chez mes parents pour venir étudier à Montréal, puis étudier en ingénierie, ça a été un moment marquant dans ma vie. Une nouvelle étape. Puis souvent, le Seigneur nous amène dans des étapes comme ça dans nos vies. Puis des moments où on doit reconsacrer nos cœurs au Seigneur. Puis dire, non Seigneur, j'ai marché avec toi, je marche avec toi. Puis c'est comme des moments de questionnement, peut-être. Le Seigneur nous place à un moment, vous dites, qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? Là? Aujourd'hui, qu'est-ce que tu décides? Puis on arrive à ces moments-là, puis qu'est-ce que le Seigneur nous appelle à faire? Dire, reste avec moi. Reste attaché à moi. Puis on prend cette décision. Seigneur, je veux marcher avec toi. Et on a, probablement, vous avez des souvenirs dans vos vies, vous avez des moments marquants, vous dites, non, moi et ma maison, on va servir l'Éternel. Quand je suis parti de la maison pour venir ici, on m'a conseillé, mes parents m'ont conseillé, ils m'ont donné des instructions, on m'a dit, trouve-toi une église. C'est important, tu trouves une église. Si tu ne t'attaches pas à une église, je ne sais pas ce qui va arriver avec toi plus tard. Parce que quand tu tiens avec les frères et sœurs, c'est là que tu grandis, c'est là que tu vas grandir. Dieu a béni. Je peux le dire, je suis encore avec vous, jusqu'à temps que le Seigneur le permettra, mais pendant 20 ans, j'ai joint une église que le Seigneur m'a gardé proche de lui à travers l'église. Et puis, le Seigneur nous amène à des endroits où on prend des décisions. Puis peut-être que tu es à un endroit aujourd'hui où tu dois prendre une décision de dire, qu'est-ce que je fais maintenant? Mais coûte que coûte, quoi qu'il en coûte, moi, je veux servir l'Éternel. Je ne sais pas où ce qui va m'amener. Je ne sais pas où ça s'en va, cette affaire-là. Je ne sais pas ce qui me réserve dans 2 semaines, dans 1 mois. Je ne sais pas où ça s'en va. Mais moi, je vais servir l'Éternel. Puis Dieu prend soin de nous lorsqu'on prend cette décision. Et si vous êtes à ce moment-là, dans votre vie, vous avez besoin de reconsacrer vos cœurs, prenez cette décision. Moi, ma maison, ma famille, on va servir l'Éternel. Et Dieu va bénir ça. Ça ne veut pas dire des bénédictions de richesse, mais une bénédiction spirituelle qui accompagne ça. Le Seigneur accomplit toutes ses promesses envers son peuple. Il a accompli ses promesses envers Israël. Il continue de les accomplir envers nous. Si on veut goûter les promesses et les bénédictions de Dieu, on doit avoir un cœur engagé à le servir. Comme Josué s'est engagé à servir l'Éternel, maintenant, par Jésus-Christ, nous aussi, on a le privilège d'être des enfants de Dieu et d'être appelés à être une nation sainte. On veut goûter les bénédictions de l'Éternel, on veut marcher avec lui. On va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ce livre. Seigneur, qu'on a vu rapidement encore une fois ce matin, mais qui nous rappelle, Seigneur, que dans l'intérieur d'une alliance avec toi, ce que tu veux nous donner, c'est le repos pour nos âmes. Et Seigneur, tu connais chacun qui est ici ce matin, tu connais la vie de chacun d'entre nous, tu connais nos cœurs, Seigneur, tu connais les inquiétudes qu'on peut vivre par rapport à des situations, par rapport à des choses qui s'en viennent pour nous. Et Seigneur, ma prière, c'est que tu puisses aujourd'hui nous aider à garder les yeux fixés sur toi, à nous fortifier en toi, en ta parole, à garder courage, à garder nos cœurs attachés à toi, à garder nos cœurs attachés à ta parole pour qu'on puisse goûter pleinement les bénédictions qui accompagnent celui qui marche avec toi. Et Seigneur, aide-nous par ta grâce, de jour en jour, par ton esprit, à s'approcher de toi pour être fortifié dans les promesses de ta parole, parce qu'on sait, Seigneur, que tu les accomplis toutes parfaitement. Seigneur, on sait qu'un jour, tu vas revenir nous prendre pour qu'on soit éternellement avec toi. Puis on a hâte à ce jour-là, à goûter le repos complet. Mais en attendant, Seigneur, fais de nous des hommes et des femmes fidèles à toi, attachés à toi, qui proclament ton évangile autour de nous pour que d'autres puissent entrer dans ce repos éternel que tu promets de donner à tes enfants. Seigneur, bénis notre temps ensemble dans la célébration et la prédication de ta parole. Seigneur, merci du fait qu'on peut être ensemble en toute liberté et bénis ce temps qu'on va avoir ensemble, qui continue. Et c'est en Jésus que je te prie. Amen.